Alors, pour commencer, je vais prendre quelques auteurs contemporains. Le premier qui a très bien entrevu cette chose-là, c'est un certain Nicolas Carr. Carr, vous avez son texte, un texte célèbre de Nicolas Carr qui s'intitule Is Google Making Us Stupid? Est-ce que Google nous rend bêtes? Mais c'est un texte qui a c'est beaucoup diffusé justement grâce à Google. Si vous le cherchez, ben vous tapez sur Google, vous voyez l'intégralité du texte. Hein. Mais Nicolas Carr est l'auteur d'un livre très célèbre aux États-Unis, enfin de réflexion sur la technique, qui s'intitule The Shallows. Et c'est intéressant parce que shallows, vous savez, qu'est-ce que c'est que quelque chose qui est shallow? Voilà, qui est superficiel. Shallow, ça veut dire plus superficiel en anglais. Et the shallows en anglais, ça veut dire les bas-fonds en même temps. Et donc, le monde des écrans, ce sont les bas-fonds. Quand il attaque les shallows, c'est vraiment la superficie des écrans. Hein. Justement, ça n'est pas profond, mais en anglais, pas profond veut dire aussi que vous êtes dans un milieu, enfin, ça s'associe à une signification morale. Dieu des bas-fonds. Alors, Nicolas Carr, dans ce texte qui s'appelle sur Google et est-ce que Google nous rend stupides, il s'est rendu compte d'une chose. Bon, c'est quelqu'un qui travaillait sur la technologie et il se rend compte qu'au bout d'un certain temps, il a beaucoup plus de mal à lire des livres. Qu'à force de travailler sur écran, son aptitude à entrer dans une lecture longue et profonde, à plonger, on pourrait dire, dans un livre, mais pour plonger, il faut qu'il y ait une profondeur, eh bien, a diminué. Et la question qu'il se pose, c'est, mais est-ce que... Pourtant, Internet, c'est la possibilité d'avoir une multitude de textes. C'est un rapport au savoir, à la recherche, qui est inimaginable par rapport à ce qu'on pouvait avoir autrefois. Et donc on pourrait dire, ben, voilà, je lis un texte sur écran, je peux lire plus de textes sur écran, j'ai beaucoup plus de textes à disponibilité. Pourquoi est-ce que ça a changé finalement mon rapport à la lecture? Est-ce que ce n'est pas au contraire l'instrument pédagogique majeur? Puisque d'ailleurs beaucoup de gouvernements pensent que la grande réforme de l'école, c'est tablette pour tous. Vous voyez? On a tous une tablette, on a accès. En plus, ça donne un côté ludique. C'est le grand truc, hein. C'est ludique. Le monde informatique est ludogène. C'est ça qui est bien. Tout devient jeu. Donc, grâce à ça, on va étendre le champ du savoir. On va être dans une encyclopédie complètement illimitée. Avec en plus, vous voyez, comme dans Wikipédia, des interactions, c'est-à-dire les lecteurs eux-mêmes participent à la constitution d'encyclopédies, tout ça, donc c'est un projet en plus démocratique. Je n'ai pas la possibilité forcément d'acquérir tel ou tel livre, de me déplacer à tel ou tel endroit, tout vient, donc c'est merveilleux. Et dit, non, ben en fait, il y a un problème, c'est que j'arrive plus à lire pareil. D'ailleurs, il se dit, est-ce qu'on lit vraiment sur un écran? Est-ce que cet acte peut s'appeler vraiment un acte de lecture? Lecture, légérer. Légérer, comme vous le savez, hein, cueillir, recueillir. Lecture, c'est un recueillement. La relecture, c'est la religion. Ouais, c'est pas rien. Quand vous lisez, vous êtes avec un livre, dans le recueillement. Est-ce que c'est pareil quand vous êtes sur un écran? Alors, ils ont fait des études. Il raconte cette étude, il dit cette, dans une étude, il se rend compte que à partir d'un site, vous savez, il met en ligne des articles scientifiques, littéraires, etc. Et ils essayent de voir le temps que les gens passent sur chaque article, le mode de circulation sur ce site. Et il se rend compte que, en réalité, le rapport est un rapport à de l'information, avant tout. Bien. Il ne s'agit plus de lire, mais de piocher les informations pertinentes. Vous faites une recherche, vous allez sur Internet, qu'est-ce que vous faites? Vous lisez en diagonale. Il y a deux raisons physiques qui vous poussent à lire en diagonale d'ailleurs. D'une part, parce que l'écran est rétroéclairé, comme ça vous fait mal aux yeux, vous n'allez pas rester longtemps. Enfin, en tout cas, c'est une agression. Hein, donc, alors, c'est pas le cas des liseuses. Mais... Puis d'autre part, les pages défilent. Ouais, le défilement de la page n'a pas la stabilité de la page du livre. Vous avez tendance à faire défiler. Et vous lisez en diagonale. Est-ce que c'est lire encore en diagonale? Rapidement, pour justement saisir et vous parcourir, cherchant votre mot-clé, votre truc, et vous piochez l'information précédente. Donc il dit, c'est de l'écrémage. On procède plus par écrémage que par recueillement. Donc, parler de lecture, c'est équivoque. Et le rapport, alors vous allez me dire, mais quand même, je pourrais, malgré tout, faire un usage de lecteur. C'est vrai, vous pourriez. Mais ce n'est pas fait pour ça. C'est fait pour de l'information. L'informatique, c'est l'information automatique. C'est ça. Ah, c'est vrai. Je veux dire ça. Donc, ça n'est pas fait pour ça. J'ai parlé du défilement, j'ai parlé du problème pour les yeux, mais ce n'est pas seulement ça, c'est qu'un écran, c'est d'abord de l'image. Qu'un écran, c'est d'abord non seulement de l'image, mais en plus de l'hypertexte, c'est-à-dire la possibilité à tout moment d'aller vers d'autres choses. Vous cliquez, vous recliquez, vous regardez. D'abord, vous voyez, l'image, ça veut dire que vous pouvez avoir des choses qui arrivent simultanément. Le propre de l'image, c'est la simultanéité. Dans une narration, vous êtes dans une succession. La parole est toujours successive, la musique est successive, mais l'image, elle est toujours dans une simultanéité. Et donc, vous pouvez avoir simultanément plusieurs flux, et c'est ce qui se passe quand vous ouvrez votre écran. Que se passe-t-il? Sur le même écran, vous avez l'heure, vous avez votre messagerie, l'arrivée de vos messages. Vous pouvez ouvrir une petite fenêtre, je ne sais pas, pour regarder, suivre quelque chose qui vous intéresse. Et puis alors, quand vous êtes vraiment devenu l'homme du monde contemporain, vous allez en plus glorifier cela, vous allez dire ce qui est beau, c'est le multitasking. Et dans le multitasking, vous voyez, vous avez plusieurs fenêtres actives sur votre écran. Vous faites plein de choses à la fois. Vous avez l'impression de faire quelque chose, d'être un homme augmenté, mais en réalité, vous n'êtes plus foutu de lire quoi que ce soit. Oui, mais quand même, l'écran, ça peut faire en sorte que je peux malgré tout lire un poème sur un écran. Après tout. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut lire de la poésie sur un écran? Moi, par exemple, j'ai un gros doute là-dessus. Vous savez que le problème de la poésie, c'est que vous ne pouvez pas augmenter la vitesse de lecture. Ah, c'est de la lecture pure. Est-ce que les méthodes de lecture rapide en diagonale pour chercher l'information pertinente peuvent marcher en poésie? Ça n'a aucun sens. Poésie, le mot a une consistance, a un rythme. Le blanc de la page a une importance. C'est précisément ça que le blanc tournant de la page joue un rôle considérable en poésie. Et le fait même que le texte soit imprimé sur cette page blanche, dans sa physicalité, c'est ça qui lui donne aussi son poids. Mais si c'est quelque chose qui est flottant, qui est nulle part, parce qu'un écran, rien n'est imprimé, Est-ce que c'est possible? Plus vous êtes un génie de la lecture rapide, donc de la fausse lecture, moins vous êtes apte à lire de la poésie. Plus c'est difficile de lire de la poésie. C'est très curieux. Et c'est ça l'expérience que fait Nicolas Carr. Alors on peut comprendre, on peut dire voilà, que les écrans nous imposent un ordre qui est un ordre parataxique. Parataxique, ça veut dire où les choses sont juxtaposées, sans lien, sans articulation rationnelle. D'accord ? Parce que c'est l'image. On peut avoir un autre truc, tout est juxtaposé. Et quand vous êtes très fort avec ces trucs-là, vous êtes capable de faire des associations d'idées très rapides, des associations d'images très rapides, mais quant à penser, quant à articuler les choses, vous avez beaucoup de mal. Et de l'autre côté, le livre, c'est la parole, vous ne pouvez pas aller, vous n'êtes pas tout le temps diverti, vous êtes dans un cadre qui est fixé, et puis ça se suit, vous voyez. Donc, quand vous parlez, quand vous devez raconter quelque chose, vous ne passez pas par une image, vous devez dire une chose après l'autre. Vous avez remarqué, vous devez faire une phrase. Quand vous devez mettre de l'ordre, bien forcément, vous allez mettre de l'ordre dans ce que vous expérimentez. Donc, vous allez passer à un ordre qui est un ordre syntaxique, voire un ordre hypotaxique. Hypotaxique, ça veut dire quand vous ordonnez des choses sous une catégorie plus grande. Et vous êtes dans un exercice vraiment de pensée, de réflexion. Donc, le changement de support n'est pas neutre. Donc, cet appareil qui était censé nous ouvrir à des lectures innombrables a un format, et ce format formate notre rapport à ce qu'il nous fournit. Et on n'est plus dans un rapport vraiment à du discours, mais plutôt à de l'information. Et on est dans de la gestion d'information. Donc c'est ça qui fait penser, qui fait dire à Nicolas Carr que le support n'est pas neutre. Que, comme le disait déjà Marshall McLuhan, the medium is the message. Le moyen, c'est aussi un message. C'est-à-dire que c'est pas que la moyen que vous employez pour envoyer un message transforme le message, le format. D'accord ? Ça, c'est un point très important. Si vous ne voyez pas ça, vous passez à côté. Vous êtes dans une vision encore instrumentale de la technique, c'est-à-dire il suffit de faire bon usage du dispositif, mais déjà cette vision instrumentale est elle-même une vision, là, se veut. La morale domine toujours, mais c'est plus complexe que ça. C'est qu'en fait, la morale se conçoit elle-même comme manipulatrice d'un monde qui serait donné comme ça, et donc déjà à partir d'un modèle, je dirais, à partir d'une notion de pure instrumentalité. Les instruments. Et c'est pas vrai. Donc ça peut aller très loin, on pourrait même se dire, mais alors ça veut dire que peut-être que l'histoire humaine était d'abord une histoire technologique. Par exemple, on a parlé de la lecture, là. On pourrait reprendre la question de la lecture de manière plus ample. Autrefois, lire, c'était quoi ? En quoi consistait l'activité de lecture ? D'abord, ce que vous aviez, c'était des manuscrits. Manuscrits qui étaient écrits par des scribes et qui donc vous étaient donnés à l'intérieur d'une communauté. Imaginez, pour avoir une Bible, il fallait avoir la Bible, c'était des moines qui écrivaient cette Bible. Et vous étiez en lien avec une tradition monastique. C'était toujours à l'intérieur d'une communauté que vous pouviez recevoir la chose. Et comme c'était rare, ce n'était pas la chose qui allait à vous, c'est vous qui alliez à la chose. Vous alliez dans des scriptoriums, vous alliez dans des bibliothèques pour pouvoir lire des livres. Puis la deuxième chose, c'est que l'activité de lecture, jusqu'à la fin de l'Antiquité, était une activité à voix haute. Vous savez, ou à mi-voix, enfin, criez pas les choses. Enfin. C'est-à-dire que lire, c'était dire. Vous lisiez le texte, Ce qui fait que, et pas de lecture rapide, c'est pas possible. Vous êtes obligé, mais vous ne pouvez pas lire en diagonale, vous êtes obligé de tout lire, de tout proférer, de tout porter à la parole. Donc c'était donner chair à quelque chose. Donner voix à quelque chose. Imaginez que ce soit encore cela notre pratique de lecture. On n'écrirait pas comme on écrit aujourd'hui. Oui, vous voyez bien. Imaginez une circulaire administrative. C'est le truc qui n'est pas fait pour être à voix haute. Vous commencez à le lire à voix haute, vous tombez dans une profonde dépression. Parce que ce n'est pas fait pour être incarné. Donc imaginez que notre pratique de lecture soit toujours de lire à voix haute, eh bien on n'écrirait pas n'importe quoi. On écrirait uniquement des choses qui sont dignes d'être proférées, d'être incarnées, et qui auraient forcément un caractère, on pourrait dire poétique, rythmique. Et c'est pour ça que le moindre texte de l'Antiquité possède des qualités rhétoriques qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Vous voyez ? Ce balancement de la phrase, tout est en lien avec l'oralité, avec la profération. Et puis on n'écrit pas n'importe quoi, il faut que ce soit des choses vraiment qui relèvent de la sagesse, de l'intelligence. Vous voyez, parce que sinon ça ne vaut pas le coup d'être porté dans notre voix. Alors voilà, il y a un type qui arrive, il s'appelle Gutenberg. Vous avez ici à Fribourg le musée de l'imprimerie, je vous conseille, c'est vraiment intéressant. Gutenberg, il invente l'imprimerie, enfin bon, c'est ça le plus cher. Et là, c'est très intéressant, parce que ce qui va se passer, c'est que c'est plus passé par des mains, c'est des machines qui vont imprimer les textes, et les textes ne vont plus passer par des communautés religieuses, des scribes, des prêtres qui transmettaient les textes, si vous voulez, mais directement par des artisans qui vont fabriquer les textes. Alors, pour se donner une autorité, ces artisans vont prendre, c'est intéressant comment tout va se dissocier, vont prendre quand même des gens qui sont des critiques littéraires. Et on va faire des éditions critiques de la Bible, avec des sortes de commentaires. Et on va essayer de la diffuser. Puis après, on va passer forcément, parce que la capacité de diffusion allant beaucoup plus loin que la capacité d'écriture, on va passer aux langues vernaculaires. On va plus lire en latin, si tout le monde va lire. Donc on va passer. Et à ce moment-là, vous dites, mais d'accord, alors, le support a changé, le support du rapport à l'écriture a changé, et bien cela, est-ce que ce n'est pas ça la cause de la réforme protestante? La réforme protestante, il y a toujours eu des hérésies. Des hérésies, vous pouvez dire le pape, on s'en fout, franchement, de ce type, on a rien à voir. L'évangile, c'est vivre pauvrement, on est des frères du libre-esprit, il y a toujours eu ça. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, la réforme a une force parce qu'elle s'inscrit à l'intérieur d'un développement technologique qui lui donne son assise? Qu'est-ce que va dire une des devises de la réforme? Sola scriptura. Voilà. L'écriture, ça veut dire seulement l'écriture sans la tradition, ça veut dire sans l'Église, le pape, les trucs, vous voyez, parce que chacun peut lire directement l'écriture. Mais ça n'est possible que parce qu'il y a l'imprimerie. Parce que quand le texte était lu en communauté et écrit par des scribes et transmis par des moines, bah forcément, il y a toujours une tradition. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas imaginer un rapport pur à un texte qui vous était communiqué à travers simplement un dispositif technique. C'était toujours transmis par une communauté. Donc, le sola scriptura de Luther, n'est possible qu'à partir de l'invention de l'imprimerie. Vous voyez, maintenant, le passage du livre à autre chose, hein, aux écrans, au flux d'informations, à l'information automatique, bien tout ça implique aussi une mutation dans notre rapport au monde, voire même dans notre rapport à la foi. Vous pouvez imaginer une foi du monde hyper technologique. Quelle serait, par exemple, la nouvelle manière de présenter le christianisme conforme à... Ouais, c'est plus simplement l'imprimerie. On ne dirait pas l'écriture seule. On s'arracherait peut-être à l'écriture, on dira seulement l'information. Par exemple.
Et c'est intéressant, vous pouvez dire, ah mais alors à ce moment-là, on est contre les protestants, mais en fait, vous êtes pire. Dire, ouais, c'est une information qui doit entrer dans ton quotidien, quand tu es dans ta chambre. Et puis Jésus, tu vois, il arrive dans ta vie, et hop, d'un seul clic, il change tout. Et là, c'est pire que tout. C'est le christianisme marqué par, vous voyez, le support technologique qui domine.
Est-ce qu'on émerge là-dedans avec il faut voir l'esprit du texte.
Oui, alors on peut insister sur l'esprit du texte, mais en fait, la question de l'esprit peut être prise de différentes façons, c'est-à-dire que l'esprit soit plus important que la lettre, oui, puisque la lettre tout, l'esprit vivifie, comme dit saint Paul, mais l'enjeu c'est de comprendre que qu'est-ce que je mets derrière le mot esprit, et parfois c'est simplement de l'information. Et donc l'idée d'avoir un rapport à la Bible qui soit un rapport, non pas comme l'avaient les grands protestants, qui est un rapport de lecture profonde, critique, inventive, je dirais, voilà. Et aujourd'hui, ce serait même, je veux l'information, je veux l'algorithme. Vous voyez, que l'algorithme se fasse cher. C'est ça devient simple. Donc, vous voyez, c'est là qu'il y a une méditation à avoir sur le poids de la technologie dans l'histoire humaine. Et vous voyez qu'en disant cela, je ne suis pas du tout d'abord en train de la... Je suis en train de lui donner un poids considérable, là, vous vous rendez compte. Hein. Je ne suis pas en train de faire une critique, c'est pas bien, etc. Je ne suis pas de jugement de valeur. Je suis en train de dire, regardez la puissance de conditionnement. Alors, dans le texte de Nicolas Carr que je vous propose, il parle de... Ben, d'un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Nietzsche, qui fait l'expérience de la machine à écrire. Et donc là, c'est pas le script, c'est pas la simple imprimée, c'est la machine à écrire. Voilà ce qu'il écrit. En 1882, Friedrich Nietzsche acheta une machine à écrire, une Morning Pencil Writing Ball, pour être précis. Sa vue était en train de baisser et rester concentré longtemps sur une page était devenu exténuant et douloureux, source de maux de tête fréquents et douloureux. Il fut forcé de moins écrire et il eut peur de bientôt devoir abandonner. La machine à écrire l'a sauvé, au moins pour un temps. Une fois qu'il maîtrisait la phrase, il fut capable d'écrire les yeux fermés, utilisant uniquement le bout de ses doigts. Les mots pouvaient de nouveau couler de son esprit à la page. Mais la machine eut un effet plus subtil sur son travail. Un des amis de Nietzsche, un compositeur, remarqua un changement dans son style d'écriture. Sa prose, déjà laconique, devint encore plus concise, plus télégraphique. Peut-être que grâce à ce nouvel instrument, tu vas même obtenir un nouveau langage, lui écrivit cet ami dans une lettre, notant que dans son propre travail, ses pensées sur la musique et le langage dépendaient souvent de la qualité de son stylo et du papier. C'est intéressant, hein. Si vous avez, ça c'est ce qui vous arrive quand vous êtes plus jeune, c'est que vous offrez un beau cahier pour écrire vos pensées dedans. Et vous n'avez jamais rien écrit dedans parce que vous vous disiez que vous ne trouviez pas la pensée assez digne pour figurer sur ce beau vélin. On n'aime plus. Mais vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que la qualité du papier est une exigence. Vous ne pouvez pas le gaspiller comme ça. Donc ça, c'est l'explication de l'ami compositeur. Hein. Il dit, voilà, la qualité, je crois que ça doit être Paul Rey, ce compositeur. Et voilà ce que répond Nietzsche. Tu as raison. Nos outils d'écriture participent à l'éclosion de nos pensées. Et cette phrase, hein, très importante, nos outils d'écriture participent à l'éclosion de nos pensées. Sous l'emprise de la machine, écrit le spécialiste allemand des médias Friedrich A. Kittler, la prose de Nietzsche est passée des arguments aux aphorismes, des pensées aux jeux de mots, de la rhétorique au style télégraphique. On écoute l'impact de la machine à écrire. Passer de la plume à la machine à écrire.
Et Nicolas Carr continue, alors, sort, si vous voulez, de l'histoire individuelle pour entrer dans l'histoire collective et prend une autre transformation, à savoir l'apparition du chronomètre. L'apparition d'une capacité de mesure qui transforme notre rapport au temps. Cela peut vous paraître étrange dans la mesure où le temps des montres, le temps, on va dire, chronométrique, est devenu notre temps habituel. Mais je vous rappelle que les Grecs, par exemple, ne connaissaient pas la seconde. Quand il y avait les Jeux Olympiques et qu'il y avait une course, vous ne pouviez pas courir contre la montre. On n'enregistrait pas les records au dixième ou au centième de seconde près. Mais ça n'avait aucun sens. Vous ne pouvez pas mesurer comme ça. C'était quoi un sprint, une course de sprint? Ben, c'était, vous étiez en train de lutter simplement avec les gens qui étaient là. Vous voyez? Alors que Usain Bolt, on ne sait pas avec qui il court. Mais c'est même très intéressant. Et des moments où on le voyait courir, il allait tellement vite, et les types, ils étaient tellement derrière, mec, on a l'impression qu'il était ailleurs dans la course. Mais il luttait contre la montre, en revanche. L'enjeu, vous voyez, c'est de devenir le corps même. Donc vous n'êtes plus présent au coureur, vous voyez, l'esprit olympique, de fraternité, de... Mais non, c'est des machines. Donc, les Grecs ne connaissent pas la seconde. La mesure du temps, comment est-ce qu'elle se faisait? Ben, elle se faisait à partir du cosmos, à partir notamment du soleil. Ce qui fait que on divisait le jour, vous savez, on divisait la nuit en 4 nocturnes et le jour en 12 heures. C'est là que le Christ meurt à la 9e heure du jour. On est mort du jour. On divise le jour en 12 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les régions tempérées, les heures sont plus longues en été qu'en hiver. Parce que c'est toujours le même. On divise toujours par 2. Vous voyez, ce qu'on divise par 2, c'est plus ou moins dans le jour. Donc on était dans un rapport au temps qui était inscrit dans la nature. Déjà, quand apparaît la montre, quand apparaît une mesure, vous dites, il est quelle heure? Ben, vous n'êtes pas en train de regarder comme un vieux paysan le ciel. Vous regardez votre montre, c'est une machine qui vous indique là. Le passage d'ailleurs d'un jour à l'autre vous est donné par la machine quand elle fait bip bip à 0h ou à minuit, vous voyez. Il n'a aucun sens. C'est pour ça que le passage d'un jour à l'autre, c'était le coucher du soleil pour un homme. Quand est-ce qu'on passe d'un jour à l'autre? Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Parce que ça, c'est une expérience sensible, une expérience anthropologique, cosmique, c'est pas une machine. Savoir à quelle heure c'était minuit, vous voyez, pour un ancien qui n'avait pas un appareil aussi calibré que le nôtre, ça ne marchait pas. Vous voyez? Vous n'avez pas encore divisé en 24 parties égales le millénaire. Le mot millénaire, tout ça, c'est bon.
Non.
Nyctémère, ça veut dire... Alors, pour ceux qui ont plus de vulgarité que de culture, le nyctémère, rien à voir d'ailleurs avec un groupe de rats français, le nyctémère, rien à voir non plus avec une insulte qui vaudrait à l'égard d'un jeune qui serait issu d'une famille de homosexuels, lesbiennes, qui aurait plusieurs mères. À ce moment-là, on devrait lui dire nique tes mères, effectivement. Et non pas nique ta mère, expression désormais désuète, mais bon, nique tes mères ou nique tes pères. Mais non, le nique tes mères, ça vient de la nuit et le jour. Donc c'est l'ensemble d'une nuit et d'un jour. Vous voyez, donc c'est la totalité du jour, quoi, avec la nuit. C'est ce que veut dire le mot nyctémère. Je vous écoute, Dimitri.
Avant l'invention de la montre, il y avait quand même les sabliers, les clepsydres, les
oui, c'est ça. C'est ça. C'est difficile. Il était plus simple. Mais je pense que le sablier et les clepsydres étaient spécialement utilisés durant la nuit. C'est-à-dire que c'était pour mesurer des actions brèves. Mais quand vous n'aviez plus de mesure solaire aussi.
Parce que la nuit, c'était plus difficile. Oui. Vous aviez la lune, vous aviez les étoiles. Donc, vous voyez, notre rapport au temps se modifie, parce que quand on regarde déjà l'heure, on ne regarde pas au dehors, on regarde une machine. Donc on n'est plus en rapport avec le soleil, on n'a plus un rapport cosmique, on pourrait dire, au temps. Alors quand vous arrivez au chronomètre, vous allez pouvoir mesurer des tas de choses, c'est magnifique. Et la première chose que vous allez mesurer, bien sûr, c'est dans une usine, le temps de travail. Voilà ce qu'écrit Nicolas Carr. À peu près au moment où Nietzsche commençait à utiliser sa machine à écrire, un jeune homme sérieux, j'aime bien cette phrase, un jeune homme sérieux du nom de Frédéric, lui aussi il s'appelait Frédéric d'ailleurs, comme Nietzsche, Winslow Taylor, vous avez compris qu'on va parler de Taylor aussi, hein, celui qui attribuera justement le gain de productivité grâce au taylorisme. Un jeune homme sérieux du nom de Frédéric Winslow Taylor apporta un chronomètre dans l'aciérie Midvale de Philadelphie et entama une série d'expériences historiques dont le but était d'améliorer l'efficacité des machinistes de l'usine. Avec l'accord du propriétaire de Midvale, il embaucha un groupe d'ouvriers, les fit travailler sur différentes machines de métallurgie, enregistra et chronométra chacun de leurs mouvements ainsi que les opérations des machines. En découpant chaque travail en une séquence de petites étapes unitaires et en testant les différentes façons de réaliser chacune d'entre elles, Taylor créa un ensemble d'instructions précises, un algorithme, pourrions-nous dire de nos jours, décrivant comment chaque ouvrier devait travailler. Les employés de Midvale se plaignirent de ce nouveau régime strict, affirmant que cela faisait d'eux quelque chose d'à peine mieux que des automates, mais la productivité de l'usine monta en flèche. Et il continue en disant « Lorsque nous utilisons ce que le sociologue Daniel Bell appelle nos technologies intellectuelles, les outils qui étendent nos capacités mentales plutôt que physiques, nous empruntons inéluctablement les qualités de ces technologies. L'horloge mécanique, qui est devenue d'utilisation fréquente au XIVe siècle, fournit un exemple frappant. Dans « Technique et civilisation », l'historien et critique culturel Lewis Mumford, Lewis Mumford est un des grands premier penseur de la technique, et notamment, il a essayé de penser aussi d'autres formes techniques que la machine, par exemple la bureaucratie, comme étant un modèle mécanique d'organisation de l'administration et du pouvoir politique. Lewis Mumford décrit comment l'horloge a dissocié le temps des événements humains et a contribué à créer la croyance en un monde indépendant, constitué de séquences mathématiquement mesurables. La structure abstraite du découpage du temps est devenue le point de référence à la fois pour l'action et les pensées. Le tic-tac systématique de l'horloge a contribué à créer l'esprit scientifique et l'homme scientifique, on pourrait dire moderne. Mais il nous a également retiré quelque chose, comme feu l'informaticien du MIT Joseph Weizenbaum l'a observé dans son livre de 1976, « Le pouvoir de l'ordinateur et la raison humaine, du jugement au calcul », la conception du monde qui a émergé de l'utilisation massive d'instruments de chronométrage reste une version appauvrie de l'ancien monde, car il repose sur le rejet de ces expériences directes qui formaient la base de l'ancienne réalité et la constituaient de fait. Alors, vous voyez, ça va très loin. À partir du XIVe siècle, c'est la thèse de Mumford, on emploie beaucoup plus l'horloge mécanique. Or, la grande révolution scientifique va se faire à la Renaissance. Une fois, on pourrait dire que l'utilisation de ces horloges devient systématique et devient presque un modèle de rapport au monde. À partir de ce moment-là, puisqu'on pense le temps non pas comme des durées organiques, si j'ose dire, liées à des phases du soleil, liées à la croissance des plantes, lié à une opération, à une activité infra-humaine, mais quelque chose qu'on peut séquencer en petites unités élémentaires, eh bien, on va aussi penser le rapport au monde comme la possibilité, enfin, à travers un séquençage en unités élémentaires qu'on pourra additionner, manipuler, etc. Et donc, l'esprit scientifique serait conditionné entièrement par la diffusion, si vous voulez, de l'horloge mécanique. Est-ce que c'était un gain ou une perte? Ça, c'est le jugement de Weizenbaum, c'est une perte. Mais ce n'est pas notre sujet ici pour l'instant. Ce n'est pas de poser un jugement moral. C'est de voir que l'apparition d'une technologie aussi élémentaire que l'horloge, pour nous élémentaire, parce que voilà, on est en Suisse, ben, vous voyez que cette technologie-là a pu avoir une influence aussi considérable sur notre représentation du monde, sur notre représentation du temps, bien sûr, mais même, vous voyez, notre rapport général au monde, de telle sorte que cette invention aurait conditionné l'apparition de la pensée scientifique moderne, physico-mathématique. D'accord ? Ces remarques nous font arriver à une première conclusion, c'est qu'il y a, comme je vous le disais au début, déflorant, on pourrait dire, la thèse d'emblée, enfin bon, il vaut mieux avoir une idée claire sur ce que l'on veut démontrer au départ, vous ne soyez pas perdu tout de suite, montrant que finalement, les objets techniques conditionnent notre manière de voir le monde. Et qu'il y aurait donc, de ce point de vue, un lien fort entre l'appareil et l'apparaître. Les choses nous apparaissent en fonction de nos appareils. Les phénomènes ne nous sont pas donnés directement. Ce que nous voyons, nous le voyons toujours à travers un certain dispositif technique. Attention, le dispositif technique n'est pas forcément le fait que je vois à travers un écran, ou à travers mes lunettes, ou à travers, vous voyez, des objets qui s'interposent, mais que même la manière de regarder la chose va dépendre de tout un univers technique environnant. Je ne vais pas le voir de la même manière si... Vous voyez comment j'ai intériorisé la pratique du monde, si vous voulez. Alors cette thèse existe, et à nouveau, pour vous montrer qu'elle est neutre, cette thèse, au sens où elle n'implique pas d'être technophile ou technoclaste au départ, hein, donc elle n'a pas un impact moral, je vais vous montrer qu'elle est reprise par quelqu'un qui s'appelle Stéphane Vial, qui a écrit récemment un livre intitulé « L'être et l'écran ». Et ce Stéphane Vial, qui critique Heidegger, qui reprend en fait ses thèses, mais pour faire une apologie de la technologie, hein, dit exactement cela. C'est-à-dire qu'il reconnaît que le rapport au monde, le rapport à autrui, est toujours médiatisé par quelque chose qui est de l'ordre de la technique. De telle sorte que nos manières de dire ou de voir vont être conditionnées, et parfois de manière, vous voyez, implicite, le plus souvent implicite. Si je dis on va se parler, vous voyez, se parler... avant l'invention du téléphone, ou avant l'invention d'Internet, ou du chat, c'est une signification bien particulière. Aujourd'hui, ça change de signification. Si je vous dis « tu dois obéir », tu dois obéir, bien, cette expression-là, je peux l'entendre à partir d'un modèle néolithique, agricole, comme dans la Bible. La parabole du semeur, je sème un truc, ça met du temps, mais l'obéissance, le temps que ça pousse. Et même si ça va trop vite, c'est pas bon, la parabole du semeur, vous voyez. Parce que ce qui pousse trop vite, c'est ce qui n'avait pas été assez profondément dans la terre, vous savez. Donc une obéissance, d'après l'évangile, d'après un modèle agricole, c'est quelque chose qui prend du temps, qui obéit à certaines saisons qui nous échappent, hein, je ne vais pas la forcer, l'obéissance, et même... qui est plus lent qu'un escargot, parce que vous voyez, c'est la durée de la pousse d'une plante. Et même si ça va trop vite, c'est pas bon. l'immédiateté dans l'obéissance est trop mécanique pour être une vraie obéissance personnelle. Vous pourrez presque penser ça, vous voyez. C'est quand même dans l'évangile. C'est troublant. Pourquoi c'est troublant pour nous? Parce que nous, notre modèle de l'obéissance, c'est j'appuie sur un bouton, j'ai un résultat. Ça, séminaire, Sébastien, tu dois obéir maintenant. Hop, tac. Alors, on peut, dans certaines circonstances qui ne sont pas celles de la vie spirituelle, il faut avancer dans une armée, par exemple, signal, résultat. Si vous n'allez pas assez vite, il y a un problème. Et face à l'adversaire, vous n'allez pas. Vous avez un modèle signal-comportement. Donc, ce que je veux dire, c'est que réduire le temps, ça peut être bien dans certains cas. Mais dans la vie spirituelle, prendre pour modèle le modèle j'appuie sur un bouton, c'est automatique, c'est faux. Et le problème, c'est que de plus en plus, nous sommes dans cette logique-là. Et que nous-mêmes, quand nous nous tournons vers les choses spirituelles, nous tournons vers les choses spirituelles à partir d'un modèle qui est celui d'une certaine technologie. Nous cherchons des guides spirituels, des recettes. Vous voyez, ça ne va pas bien. Je vais à Château-Rima pour avoir, voilà, parce que j'ai peut-être une, pour prier, avoir un exorcisme, un truc. Et puis alors, vous dites, ouais, j'ai rien senti. Quand tu veux sentir quelque chose, t'es pas là-bas, allez, tu vas dans une partouze. Tu veux sentir des trucs. Non, mais c'est. Vous comprenez? Si on est dans des durées profondes et humaines, il y a forcément quelque chose qui ne peut pas marcher comme ça. Mais le problème, c'est que c'est devenu notre modèle. Et à nouveau, hein, l'immédiateté ou l'efficacité dans la réponse, c'est bien, dans certains cas particuliers. Mais quand ça envahit tout, vous voyez, c'est ça le problème, ça vient conditionner même nos rapports aux choses spirituelles. Donc, vous voyez, le dispositif ambiant, l'appareil, conditionne l'apparaître, l'apparition même, la manière dont on va voir les phénomènes. On est dans ce que on peut appeler une sorte de phénoménotechnie. C'est une expression qui vient de Bachelard, de Gaston Bachelard, qui lui l'employait à propos de cette chose très très étonnante, c'est que la science spécule sur l'existence d'une particule, par exemple, un phénomène, du boson de Higgs. Elle va construire ce boson de Higgs, personne ne le voit. Hein. On en pense l'existence, Peter Higgs en pense l'existence à partir de la théorie. Il dit que ça doit exister. Et voilà qu'on va construire une machine, et que cette machine, machine importante, je trouve en Suisse, hein, le grand accélérateur de particules du CERN, cette machine va faire apparaître le boson de Higgs. C'est-à-dire, vous voyez, on a des phénomènes on en a su la existence théorique et on les a fait apparaître. Maintenant, on peut les expérimenter par des machines quantiques. Donc, c'est des appareillages qui nous font apparaître les choses. Mais cette chose qu'on voit en général dans la science et dans la technoscience peut être d'une certaine façon généralisée au latis mutandis en disant toute apparition, tout appareil se fait à partir d'un certain apparaître. Tout à fait. L'inverse, tout apparaît, se fait à partir d'un certain appareil. Et voilà ce texte de Stéphane Vial, voilà ce qu'il écrit, dans ce livre qui s'intitule « L'être et l'écran, comment le numérique change la perception ?» Stéphane Vial, c'est pas un penseur, hein, c'est pas un philosophe, c'est un spécialiste du design. Enfin, c'est un spécialiste de pensée du design, vous voyez. Pas de pensée du design. Non, en fait, il est. Non, je crois qu'il est un peu limité. Bon, en fait, il est un peu limité dans sa pensée. Mais il a des intuitions très fortes. Je dis ça parce que, comme ce cours est enregistré, il est toujours de salut public de dire attention, j'ai nommé quelqu'un, mais c'est pas un grand auteur. Vous n'êtes pas obligé de lire. Ouais. Albert Dorfman, oui, il n'est pas encore traduit, mais. Mais là, non. Alors. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Comme une édition d'Arte, c'est intéressant. Toute expérience du monde dépend d'une ontophobie.
cacophonie technique.
Bon, déjà, lui, donc, ouais, ben bah, voilà, bon, ça, c'est les gamins, quoi, ils utilisent des termes techniques.
Parce que, dans chaque cas, le simple fait d'apparaître, c'est-à-dire la manifestation pure de l'être, ou ontophanie, consiste à s'offrir au sujet selon des qualités perceptives entièrement conditionnées techniquement, qui rendent unique et singulière l'expérience du monde possible à une époque donnée. Qu'il s'agisse de la table de restaurant qui crée les conditions physiques du face-à-face, du téléphone qui crée les conditions sonores d'une parole sans face-à-face, ou des réseaux en ligne qui créent les conditions interactives d'une liaison pouvant être à la fois sans parole et sans face-à-face.
Vous avez compris que le stade ultime, c'était sans pensée, sans rien. Pardon, mais
la relation à autrui est toujours, dans sa phénoménalité même, techniquement conditionnée. Autrement dit, en tant que composante de mon expérience du monde, le lien social tout entier est le fruit d'une coulée phénoménotechnique.
Bon, le fruit d'une coulée, je ne sais pas quoi il pense. Enfin, ouais, il a des modèles un peu bizarres, en sens qu'il ne connaît pas très bien l'agriculture. Une coulée, le fruit d'une coulée, c'est vraiment de la confiture.
Grâce aux interfaces numériques mobiles des années 2000, qui font du réseau une réalité ubiquitaire constante. Ubiquitaire, ça veut dire qu'il est partout, c'est un attribut divin, hein, ubiquité. Autrui est potentiellement toujours là, dans ma poche, à portée de main. Ça, c'est extraordinaire, cette phrase. Autrui est potentiellement toujours là, dans ma poche, à portée de main.
Et vrai, c'est la destruction d'autrui dans son altérité. Hein. J'ai autrui dans ma poche.
Et il continue en disant, donc telle est la leçon de l'histoire des techniques, il en résulte que l'opposition entre une sociabilité en ligne et une sociabilité hors ligne n'a fondamentalement aucune raison d'être. À toutes les époques historiques et dans tous les systèmes techniques, nous avons toujours été en relation avec autrui à l'aide d'intermédiaires phénoménotechniques. Donc il n'a toujours pas, il a pas tort, hein. Il n'a pas tort, vraiment, je suis d'accord avec lui. Il n'existe pas de modalité technique, alors voilà. Il n'existe pas de modalité technique plus vraie ou plus fausse lorsqu'il s'agit d'être en relation avec les autres. Mes amis ne sont pas moins vrais ou réels lorsque je discute avec eux sur Facebook que lorsque je dîne avec eux à la maison. En lisant cette phrase, je me dis qu'est-ce qu'on va se faire chier quand on dîne chez lui. Ils ne sont pas plus réels quand ils sont à la maison que quand je communique avec eux sur Facebook. Je me dis, mais vraiment, c'est pas quoi faire. Vous êtes tellement conditionné par Facebook, je cherche ou liker son copain qui est en face, il ne sait pas. Quoi. Plutôt que de succomber à la rêverie du virtuel qui conduit à envisager la sociabilité en ligne comme irréelle, il faut simplement accepter l'idée que nos modalités d'interaction sociale ont été, grâce aux technologies numériques, augmenter de nouvelles possibilités opérationnelles sans que cela annule ou remplace les précédentes. Vous voyez, il y a un énoncé qui est vrai, qui est l'idée d'un conditionnement de notre rapport aux autres et au monde par la technique. La question c'est, est-ce que c'est... Il y a deux questions qu'on peut poser, trois questions que je vais poser. Il y a deux choses qui sont fausses, mais il y a une qui est une vraie question. La première question, c'est... deux, c'est des fausses questions, parce que je vous ai dit... La première, c'est quand même une vraie question. La première question, c'est... Est-ce que c'est vrai que tout rapport au monde est entièrement conditionné par la technique? Conditionné par la technique, oui, entièrement, est-ce que c'est vrai? Est-ce que, par exemple, comme le pense Lévinas, le face-à-face avec autrui ne serait pas dans l'amour, par exemple, hein, ou dans la rencontre éthique, ne serait pas justement une relation antérieure au monde technique. C'est-à-dire, quand je suis face à un visage que je perçois comme visage, c'est-à-dire le visage qui me parle et qui me dit sa vulnérabilité, eh bien, il est d'une certaine façon inconditionné. Ça rejoindra un peu la thèse de Kant sur la morale. Et la morale nous met en rapport avec des choses qui sont inconditionnées. Est-ce que tout est conditionné par le monde et par la technique, ou alors est-ce qu'il n'y a pas des relations qui sont des relations de vrai face-à-face, sans la médiation de la technique? Là, c'est une question qui est profonde, on en reparlera. Autrement dit, est-ce que je peux toujours aimer et toujours faire le bien, quelles que soient les conditions techniques du monde. Ou est-ce que les changements de conditions techniques changent la modalité de l'amour, voire même pourraient modifier l'amour de manière radicale? C'est une question qu'on pourrait poser. Alors, deux autres remarques. Là, je vous avais remarqué, la première chose, c'est que il dit, comment s'appelle-t-il, Stéphane Vial, il dit que il n'y a pas de technique plus vraie ou plus fausse. C'est d'être, enfin, ou fausse. C'est vrai, on peut dire que c'est pas vrai ou faux. Mais est-ce que la tablette, c'est aussi bien que la table pour rencontrer quelqu'un? Ou est-ce que la table de restaurant, comme il dit, ou la table familiale, n'est pas un objet technologique très supérieur à la tablette électronique pour rencontrer les gens? Pour lui, tout est égal, et ça on peut critiquer. Et la troisième remarque qu'on peut faire ici, c'est est-ce que le progrès est cumulatif comme il le prétend? Parce que vous savez bien ce qu'il vous dit. Il vous dit, on vous a rajouté des trucs, mais le reste est toujours là. Et vous avez des tablettes électroniques, vous avez toujours des tables. Vous pouvez toujours, quand vous voulez, inviter vos amis à table, quand vous êtes lassé d'être en contact avec eux par WhatsApp ou par Facebook. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le progrès est cumulatif, ou alors est-ce que le progrès, une nouvelle chose arrive, elle chasse la précédente? Est-ce que le progrès est une destruction créatrice, comme dirait Schumpeter? À ce moment-là, vous voyez, donc, c'est pas cumulatif. Voilà. Donc pour conclure ce cours d'introduction, ce que nous venons de voir, c'est qu'on ne peut pas critiquer la technologie simplement de l'extérieur, qu'il est nécessaire de penser la technique, et que penser la technique, justement, c'est reconnaître que notre faire, nos manières, nos maniements, voire nos manipulations, eh bien, impliquent une certaine forme de manifestation. Enfin, j'ai utilisé le jeu de mots sur appareil et apparaître, mais je pourrais faire le jeu de mots sur maniement et manifestation. Est-ce que, voyez, notre manière de manier nous fait voir, nous apparaît, nous manifeste les choses toujours d'une certaine manière. Et donc, le but, ça n'est pas de critiquer la raison instrumentale. Vous savez, souvent on dit, oulala, on a perdu le sens de la raison contemplative, et il faut, parce que tout est réduit à une raison instrumentale. Mais non, il s'agit de penser qu'est-ce que c'est que cette raison instrumentale. Parce que d'une certaine façon, la raison humaine, à la différence de l'intellect angélique, c'est une raison qui est dans un corps et qui est donc conditionnée par les pratiques de ce corps, par l'environnement de ce corps. Donc la raison humaine est toujours une raison qui est marquée par les instruments qui l'environnent. La raison humaine est toujours conditionnée par les instruments. Et c'est pour ça, en conclusion, que je veux reprendre une phrase de Matthew Crawford, autre auteur contemporain qui a écrit ce texte remarquable intitulé « Éloge du carburateur » en français, essai sur le sens et la valeur du travail, que j'ai recommandé à Frédéric, d'ailleurs, je crois. Voilà ce qu'il écrit. « Le sens du problème de la technologie est pratiquement à l'opposé de ce que l'on avance généralement. Ce qui fait problème, ce n'est pas la rationalité instrumentale, mais le fait que nous vivons dans un monde qui, justement, ne sollicite pas l'instrumentalité incarnée qui est consubstantielle à notre être. Nous avons trop peu d'occasion de vraiment faire quoi que ce soit parce que notre environnement est trop souvent prédéterminé à distance. » Cela signifie que nous sommes dans une époque non pas où nous croulons sous les instruments ou sous la technique, mais dans une époque où nous manquons de techniques proportionnées à notre corps, proportionnées à notre vie humaine. Et que la vraie critique de la technique ne peut se faire finalement qu'au nom de la technique. La critique de la technologie doit se faire au nom d'un retour à certaines techniques, à certains savoir-faire, à un certain sens de l'instrument. On le verra, l'instrument par excellence,
c'est l'instrument de musique. Et donc, et là, quand une chose n'est plus comme un instrument de musique, à ce moment-là, elle n'est plus comme un instrument. Alors, on va s'arrêter là.